Bienvenue dans Soins Sonores, l'émission où les futurs infirmiers découvrent les nombreuses spécialités que leur offre leur métier. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans le quotidien de Dorothée, IDE, hygiéniste. Profession méconnue mais indispensable à la santé de tous, je suis ravi de vous accueillir, Dorothée, et de mettre en lumière votre spécialité.
Bonjour à tous.
Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, Soins Sonores, c'est parti. Aujourd'hui, c'est au tour de Margot et Livia de mener cette interview. Première question, Livia.
Donc, bonjour, merci d'être venue. Première question pour classique, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans le service? Parce que l'infirmière hygiéniste, on se demande toujours à quoi elle sert vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Alors, est-ce que vous avez à expliquer, Dorothée, souvent ce que vous êtes amenée à faire?
Oui, parce qu'en fait, en général, les gens, quand on parle d'hygiène, ils pensent surtout au nettoyage, au bio-nettoyage de l'hôpital. Et en fait, c'est pas du tout notre rôle, en fait. On est vraiment dans la gestion du risque infectieux, dans la prévention du risque infectieux pour les patients et pour le personnel. Donc, c'est vrai qu'il faut souvent expliquer... Les gens ne savent jamais vraiment ce qu'on fait comme métier, en fait.
Du coup, pour la deuxième question, ça serait quelle est la question la plus drôle ou inattendue qu'on vous ait déjà posée sur l'hygiène à l'hôpital ?
Où est-ce que je peux trouver du papier toilette parce qu'il n'y en a plus dans les toilettes ? Alors que moi, je ne sais même pas où on peut trouver du papier toilette. Enfin, au magasin, sans doute. Mais... voilà. C'est toujours pour vous dire qu'en fait, les gens connaissent pas notre métier et quand ils sont pas sur le terrain ou qu'ils connaissent pas un peu ce qu'on fait, vont toujours revenir vraiment aux bases de l'hygiène. C'est pour ça qu'on a changé là récemment, la Société française d'hygiène hospitalière a changé notre nom. On n'est plus des infirmières hygiénistes, mais des infirmières de prévention du risque infectieux, qui englobe déjà beaucoup plus de choses.
Okay. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette spécialité ?
Alors en fait, j'ai un parcours assez particulier, si on peut dire. C'est que j'ai commencé à l'hôpital comme ASH, en fait. Donc j'ai fait tout ce qu'on peut faire, ASH, AS, infirmière de bloc opératoire, puis ensuite infirmière hygiéniste. Et en fait, le fait de faire tout ça, je pense que déjà, quand on est ASH, on est vraiment au sein du nettoyage, là, justement, du bio-nettoyage, donc de la propreté de l'hôpital. Et à chaque fois que j'ai monté des échelons comme ça, que j'ai changé de catégorie professionnelle, j'ai toujours été vraiment intéressée par cette partie hygiène, ce qui m'a d'ailleurs amenée à être IBOD. Et en fait, l'infirmière de bloc opératoire, c'est quand même quelqu'un qui est très rigoureux au niveau infectieux, en fait. Voilà.
Du coup, vous avez dit comme quoi vous étiez vraiment... centré du coup sur l'hygiène, même si c'est ce qui vous a attiré. Est-ce que du coup ce côté-là, est-ce que votre métier a un impact du coup sur votre vie privée?
Alors, un petit peu, mais pas... Enfin, en fait, je suis beaucoup moins rigoureuse à la maison qu'à l'hôpital. Déjà parce qu'on n'a pas les mêmes germes à la maison qu'à l'hôpital, de toute façon. Bon, là, avec la Covid, ça a pris beaucoup de proportions au niveau familial, en fait, dans la vie quotidienne des gens. Un peu trop à mon goût. Je pense qu'il y a des choses qui étaient dites et qu'il ne fallait pas forcément faire. Donc, non, en fait, oui, alors mes enfants, ils ont appris très tôt que quand on allait aux toilettes, on se lavait les mains. Quand on rentre à la maison, on se lavait les mains. Mais en fait, voilà, je ne suis pas plus...
Il n'y a pas de déformation professionnelle.
Non, il n'y a pas de déformation professionnelle. Alors, peut-être plus quand on va dans les lieux publics ou des choses comme ça, où là, je vais faire plus attention dans les toilettes publiques, mais un peu comme beaucoup de gens maintenant, en fait. Puisque, grâce à la Covid, les gens ont quand même pris conscience qu'il y avait des choses à faire. Mais non, je suis pas... Il n'y a pas de déformation professionnelle.
Et du coup, en revenant sur la Covid, est-ce que ça a fait évoluer votre métier ?
Alors, ça nous a fait, peut-être reconnaître dans la profession. Alors, moi, j'étais au moment du Covid, au début du Covid, j'étais pas encore en structure de prévention du risque infectieux, j'étais encore au bloc opératoire. Mais j'ai été détachée, comme j'avais déjà mon diplôme universitaire en hygiène hospitalière, j'ai été détachée par le bloc en cellule d'hygiène. Donc, c'est là où j'ai vraiment découvert le métier. Et c'est là où, où j'ai compris, et où le personnel hospitalier a vraiment compris qu'on avait un sens et une utilité, puisqu'on leur a quand même apporté tout ce qui est protection, les PCR, comment faire les PCR, tout ça, en fait, c'est quand même... c'est nous qui gérions tout ce quotidien à l'hôpital, en fait. Et on a fait aussi, avec la Covid, on a fait aussi beaucoup de psychologie, parce qu'on allait dans les services, on était tout le temps dans les services, notamment les services Covid. Et en fait, le personnel avait besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Et du coup, ça nous a rapprochés des équipes.
Est-ce qu'il y aurait du coup des pratiques qui seraient restées depuis la Covid, du coup ?
Alors oui, par exemple, le port du masque. Avant la Covid, le personnel qui était malade, qui venait à l'hôpital avec un rhume ou qui toussait, ne portait pas de masque, un peu aussi dans la vie quotidienne. Bon, là, on le retrouve quand même plus. Enfin, les soignants, c'est sûr que si, à partir du moment où ils ne sont pas bien, ou là, avec l'automne qui arrive, le nez qui coule, tout ça, ils vont mettre un masque, ils vont porter un masque. Donc déjà, ça, c'est un atout pour nous parce que on n'a pas cette prévention du risque gouttelette, en fait, à faire. L'hygiène des mains aussi, parce que la consommation de solutions hydroalcooliques a énormément augmenté pendant la Covid et suite à ça, en fait. Bon, là, ça commence à redescendre un peu, il faut toujours être... Mais ça a quand même apporté des bonnes choses.
Vous avez parlé, du coup, des équipes. Est-ce qu'elles sont conciliantes avec vous ? Parce que des fois, on entend... les hygiénistes, elles sont là pour un peu nous embêter sur nos pratiques, etc.
Ouais, alors ça dépend. Là où je travaille, en fait, on fonctionne vraiment dans la pédagogie et on va jamais dans un on va jamais dans un service parce que ça va pas bien. On essaye de passer. En fait, on est deux et demi, deux infirmières et demi. On a chacune nos services et on est référente dans certains services et en fait, on essaye de passer au moins une fois par semaine dans notre service, même si s'y passe rien au niveau du risque infectieux. Même s'il n'y a pas de patients infectés, tout ça, on y va, on dit bonjour, on demande comment ça va. Ils ont parfois des questions, tout ça. Et du coup, il n'y a plus cet effet de police un peu qu'il y avait il y a une dizaine d'années, en fait. Avant, c'est vrai qu'elles avaient un rôle où elles venaient. Enfin, même moi, quand je les voyais arriver, je disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Là, c'est moins le cas. Enfin, chez nous, ce n'est plus le cas. Parce qu'on essaye vraiment de faire partie du service, en fait, avec les équipes.
Qui est votre supérieur hiérarchique ? Finalement.
Alors, on a un cadre de pôle, en fait.
Oui.
Donc, moi, je fais partie du pôle biologie et hygiène hospitalière. Donc, au niveau médical, on a en chef de pôle une biologiste. Et moi, dans mon service, j'ai pas de cadre de proximité. J'ai un cadre de pôle et j'ai une praticienne hygiéniste, en fait, qui est pharmacienne formée avec un DU d'hygiène.
Et vous avez un degré hiérarchique sur la simple infirmière, finalement ?
Pas vraiment. En fait, on est plus à avoir des spécificités, des spécialités différentes. Moi, je suis IBOD à la base. Donc, en fait, je m'occupe de tout ce qui est bloc opératoire, prévention des risques liés à l'air, à l'eau, aux surfaces, dans les zones à environnement maîtrisé, en fait. Donc, le bloc, l'imagerie, les services un peu plus spécifiques. J'ai une collègue qui a plus travaillé dans les urgences, la gériatrie, donc elle gère ces services-là, en fait. Il y en a une qui est plus... qui a refait des formations sur les travaux, ce qu'il fallait faire au niveau de la prévention du risque infectieux pour les travaux. Donc, c'est elle qui s'occupe plus de ça. En fait, on a toutes des spécificités. Et puis, du coup, ça nous permet de gérer le service. Mais il n'y a personne qui... Alors, en général, quand une infirmière arrive dans le service d'hygiène, elle est rarement diplômée. Elle a rarement le diplôme d'hygiène hospitalière, en fait. Donc, bon, du coup, elle est un petit peu en dessous, on va dire, mais parce qu'elle apprend, en fait. Là, on a une dame qui vient d'arriver. Ça fait 2 mois qu'elle est là, donc elle est plus à voir un peu ce qu'on fait et tout ça. Voilà. Mais non, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, on va dire, ou je ne sais pas, entre nous.
J'avais une question qui me taraude aussi. Est-ce que dans votre emploi, dans votre fonction, il y a un découpage de l'hôpital suivant différentes zones où l'hygiène doit tenir une zone plus importante Alors, je ne sais pas s'il y a des... je me suis fait tout un schéma en tête, avec des zones rouges, vertes, des choses... Je présume que le bloc,
oui.
L'hygiène doit être drastique, mais est-ce qu'il y a différents degrés ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de zone rouge, pas de zone verte, tout ça. Il y a vraiment les zones à environnement maîtrisé, donc qui sont le bloc opératoire. En fait, c'est partout où il y a des ventilations, où on est vraiment sur de l'air, sur de l'asepsie, en fait. Hein, donc, les blocs... les isolateurs en pharmacie pour préparer les chimiothérapies, la médecine nucléaire, le laboratoire au niveau de la bactério et de la prise en charge des analyses de tuberculose, de BK. Ben voilà, il y a des zones spécifiques comme ça où là, ben, c'est nos zones rouges un peu où on fait très attention, où on va régulièrement faire des audits, tout ça. Enfin, voilà. Parce que c'est des endroits où on ne peut pas se permettre... d'avoir un nombre incalculable de micro-organismes, notamment pathologiques, en fait, qui pourraient rendre les patients malades. Après, il y a toute la zone de réanimation qui serait un cran en dessous, je dirais.
D'accord.
Réanimation, la pneumo, enfin, les services un peu où ils ont des lits de... Alors, pas vraiment de réa, mais de soins continus, en fait. Hein, donc, des patients plus fragiles, souvent immunodéprimés, ou avec énormément de matériel, en fait, hein, de dispositifs médicaux. Et puis après, il y a les services. Et alors après, dans les services, bon, ça, c'est notre ressenti personnel, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des services où tout va rouler, on va y aller, ça va bien se passer, il va y avoir un petit truc qu'ils ne connaissent pas, ils vont tout de suite nous appeler. Puis il y a des services où ils font un peu leur sauce, où c'est un peu plus compliqué, en fait, où il faut plus surveiller. Mais il n'y a pas de... Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'encadrement entre...
Vous avez un petit rôle de gouvernante, alors. Hein,
ouais, c'est ça. Alors, ben, comme on disait, on a un petit rôle de police, mais on ne le prend pas comme ça. En fait, moi, je vois mon travail comme vraiment... alors, bon, vous n'avez pas posé la question, vous allez peut-être la poser, mais est-ce que je fais encore du soin ? Oui. En fait, je suis encore au soin, puisque la prévention du risque infectieux, enfin, éviter qu'un patient attrape une infection autre que celle qu'il a quand il arrive à l'hôpital... Pour moi, ça fait partie du soin, en fait. Quand un patient sort de l'hôpital et qu'il n'a pas attrapé plus qu'il n'avait au départ, ou qu'on l'a guéri parce qu'on a trouvé quelque chose, hein, voilà, on est content. Et puis, voilà, c'est vraiment... on est vraiment au soin. Enfin...
Et du coup, je me posais comme question, est-ce que vous êtes attitré à un service en spécialité ou vous allez dans tous les services de l'hôpital,
alors,
ou
on...
à un hôpital ou à d'autres?
Nous, on est... Alors moi, il y a des fonctionnements différents en fonction des hôpitaux où on travaille, hein, je pense. Notamment, par exemple, en clinique où il n'y a pas souvent des temps pleins. Donc, l'infirmière hygiéniste, elle travaille dans plusieurs cliniques. Bon, moi, où je travaille, on est référente de certains services et de certaines zones spécifiques. Enfin, moi en tant qu'ibode, ben, je m'occupe de tout ce qui est prélèvement d'air, de surface, d'eau dans l'hôpital, des zones blocs opératoires. Il y a l'endoscopie aussi, où on fait les prélèvements d'endoscope. Enfin, et donc, j'ai moins de services que mes collègues, par exemple, qui, elles, ne s'occupent pas de tout ça, en fait. C'est tout ce qui est technique. Et du coup, qui se répartissent les services.
Donc, vous faites des prélèvements régulièrement, c'est
Alors,
ça ?
Moi, non.
On vous voit arriver, bonjour l'équipe.
Et... Alors, c'est pas moi qui les fais. Moi, je l'ai, avec la praticienne hygiéniste, en fait, on les prévoit. Et puis, les techniques, hein, les services techniques. En fait, j'ai un travail qui est très transversal. Avec tous les gens de l'hôpital, en fait. Tous les services de l'hôpital, on peut dire, de la cuisine jusqu'à la morgue. Enfin, voilà, en passant par les urgences. Et du coup, on a... Il y a des prélèvements à faire, hein, régulièrement dans les zones aseptiques, hein, comme le bloc opératoire, par exemple. Donc, moi, je les prévois, en fait. Je prévois, je sais, enfin, après, c'est réglementé. Hein. On est beaucoup réglementé par la Société française d'hygiène hospitalière, en fait, la SF2H. On a des prélèvements à faire régulièrement d'air, de surface et d'eau dans un hôpital. Donc, c'est moi qui les organise, qui les prévois. Et puis après, on a le retour des résultats. Et en fonction des résultats, c'est pareil, on donne les consignes. Alors, avec la praticienne hygiéniste avec qui je travaille, on donne des consignes en fonction des résultats, s'ils sont mauvais, en fait.
Et du coup, comment cela se déroule lorsqu'il y a une enquête à propos d'un patient qui développe une infection, du coup, dans un service ? Quel est, du coup, votre rôle à vous
Alors, bah, ça va dépendre de ce que c'est. En fait, on va, par exemple, prendre une infection site-opératoire. Souvent, on a l'information par le laboratoire, en fait, qui nous indique qu'ils ont retrouvé une bactérie résistante, enfin, quelque chose de pas courant dans un prélèvement sur un patient. Et dans ce cas-là, on va reprendre le dossier du patient pour voir un peu son parcours, en fait. Et puis, en fonction de ce qu'on va trouver, ben, soit il n'y a rien de particulier, parfois ça peut être des problèmes de patients, un patient qui est obèse, qui est diabétique, enfin voilà, y a des patients qui sont quand même plus à même à avoir des infections secondaires. Donc ben voilà, c'est tout. Et puis par contre, quand on va se rendre compte qu'il y a eu un défaut dans sa prise en charge, en fait, ou que ça revient souvent, par exemple, on peut avoir des problèmes de vénite, vous voyez, des infections sur des cathés veineux périphériques. Dans un service, on en a 2, 3, 4. Donc là, on va aller voir, en fait, on regarde comment ils travaillent. Donc on est tout le temps avec le cadre du service aussi. Hein, on ne travaille jamais seul, c'est-à-dire qu'on prévient le cadre, on voit avec eux s'ils sont d'accord. On ne va jamais aller dans un service en disant voilà, nous voilà, et puis on va vous regarder. Alors, parfois pour des choses mais courantes comme les audits zéro bijoux ou l'hygiène des mains, mais à partir du moment où c'est quelque chose de très particulier, on a toujours l'accord du cadre, on va avec le cadre. Parfois les équipes sont aussi prévenues, hein, on va jamais les voir par surprise, hein, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est voir comment ils travaillent dans la vie de tous les jours. Et puis, si on retrouve des problèmes, en fait, on va aller en discuter avec eux. Mais alors, pareil, jamais avec un personnel en particulier. Quand c'est comme ça, on demande à voir l'équipe. C'est jamais nominatif. On va jamais, même moi, si je vois quelque chose qui est mal fait par une infirmière, je vais pas aller voir la cadre en disant mademoiselle machin, elle a fait ça, ça va pas du tout. Non, on reprend l'ensemble du service. Parce qu'on ne veut pas justement
stigmatiser,
devenir aussi la police, enfin celle qui dit attention, qui pointe du doigt et tout ça. À chaque fois qu'il y a un souci, même par exemple quand on a un cluster dans un service, hein, donc il y a un patient qui arrive Covid et puis à la fin de la semaine on en a 10, on va jamais aller chercher quelle personne a mal mis son masque, quelle personne a fait une faute, parce qu'on sait, que c'est du nosocomial, on sait qu'à un moment il y a eu un défaut de prise en soin. Mais on reprend tout le temps avec l'équipe et de ce fait, ça se passe bien. Parce qu'en fait, les gens, ils se remettent en question. Et puis, les soignants, ils sont quand même tout le temps là, à majorité, pour faire du bien aux patients et pour bien le prendre en charge, en fait.
OK. Et du coup, est-ce que les protocoles, ils changent régulièrement selon...
Alors, en général, non, nous, on les revoit à peu près. Enfin, tout ce qui est en risque infectieux, c'est revu à peu près tous les 5 ans. C'est pareil, en fait, c'est la SF2H hein, qui gère ça, enfin, qui nous dit, voilà, y a des études qui ont été faites, on peut travailler comme ça. Par exemple, là, pour le Covid, il y a eu beaucoup de changements en 2 ans de temps parce que ça a évolué par rapport à comment on connaissait le virus, en fait, hein, la connaissance du virus. Donc, on est passé à un scaphandre, à un masque chirurgical, hein, en gros. Mais non, il n'y a pas trop de... On va dire que ça peut bouger tous les 5 ans. Après, ça dépend, bon... Là, il n'y a plus de nouvelles bactéries qui sont découvertes, heureusement. Hein, on en a déjà pas mal. En pathogènes, hein, je parle. Donc, bactéries multirésistantes ou hautement résistantes. Donc, on est tout le temps avec nos petites bactéries, nos petits trucs. Mais il n'y a pas trop de changements. Ce n'est pas quelque chose qui change beaucoup.
La résistance aux différentes antibiothérapies, vous le voyez, vous ?
Ah oui. Oui. Alors, chez nous, on a depuis quelques années, là... On a une infectiologue qui fait très attention, enfin qui travaille beaucoup avec les médecins. Et les médecins travaillent beaucoup avec elle, on a de la chance. Donc en fait, en général, un patient n'est jamais mis sous antibiothérapie sans son accord et sans son avis. Et de ce fait, on a de moins en moins de patients qui s'infectent en bactéries. Souvent, c'est hautement résistante. Hein. Mais bon, on en a quand même. Hein, et on le remarque à partir du moment où un patient a eu plusieurs fois des antibiotiques, il va forcément développer une résistance. Je pense que... Enfin, il n'y a pas que moi, mais on pense qu'en fait, on est tous porteurs de bactéries au moins multirésistantes. Quoi, si on se faisait tous tester actuellement, puisqu'on sait qu'on en retrouve dans l'eau, on en retrouve... En fait, les gens les excrètent, hein, forcément. Et c'est que des... En fait, c'est beaucoup de bactéries du tube digestif. donc qui vont être excrétées par les urines et les selles. Donc on va les retrouver dans l'eau du réseau, et malheureusement.
Je rebondis sur une question qu'on vous avait posée avant. Vous aviez parlé comme quoi vous travaillez avec la cadre notamment, mais avec quel genre de professionnels de santé vous pouvez aussi collaborer, mis à part du coup les infirmiers ou autres, ou aides-soignants du coup qui font partie de l'équipe.
Tous, en fait, ça va des ASH aux brancardiers, en passant par les médecins, les internes, les externes, les cuisiniers, les plombiers des services techniques. En fait, on peut travailler avec tous les personnels parce qu'en fait, comme je disais un peu, on est en transverse et on forme, on est amené à former ou à reformer tous les personnels de l'hôpital, en fait, à partir du moment où ils circulent dans les zones de soins. Donc, le plombier, par exemple, quand il va aller réparer une fuite dans une chambre, il faut qu'il fasse un minimum d'hygiène, donc au moins d'hygiène des mains, si c'est un patient qui est en isolement, qui sache ce qu'il doit faire. Enfin, voilà. Donc, on côtoie tout le personnel de l'hôpital, en fait.
Ok. Est-ce que vous avez du coup aussi un rôle lors des épidémies ou alerte sanitaire?
Oui. Alors, en fait, quand il y a des épidémies, c'est pareil. Ça dépend de quel type d'épidémie on parle. Hein. On gère avec le service à savoir comment gérer cette épidémie. Est-ce qu'on coupe les patients? Est-ce qu'on ferme le service pendant un moment? Enfin, voilà. Après, ça peut être des alertes qu'on a directement de l'ARS, en fait, sur, par exemple, des épidémies, des problèmes alimentaires, des listérioses, des groupements de gastro-entérites. Donc là, il faut qu'on fasse des recherches. En général, c'est des recherches avec les cuisines pour savoir ce qui a été donné à manger aux patients. Les légionelles aussi, la légionellose, un patient qui arrive et qui n'est pas porteur et qui se positive dans l'établissement, on va rechercher, on va nous demander forcément nos prélèvements d'eau, les derniers prélèvements d'eau, la température de l'eau.
Ouais, d'où ça vient un peu.
Ouais.
Quels sont les protocoles les plus stricts qui sont dans votre établissement ?
Je dirais que ça, c'est la base, hein. Pour moi, c'est les précautions standards, en fait. Le protocole de précautions standards. À partir du moment où, si tout le monde appliquait les précautions standards correctement, on n'aurait pas d'infection. Forcément, il y a des gens qui arrivent infectés, mais on n'aurait pas de transmission de micro-organismes de patient à patient. Diminué, ouais. Oui.
J'ai réfléchi du coup.
Moi, je me demandais si on parle toujours de l'hôpital, mais est-ce que votre spécialité, un peu bête comme question, mais est-ce qu'on pourrait l'entrevoir en libéral ?
Alors, moi, je me suis déjà posé la question.
Ah, je suis content.
Et je me dis que oui, parce qu'en fait, alors par exemple, quand on a une crise, comme la crise Covid, ça aurait été bien qu'il y ait des infirmières hygiénistes en libéral, parce qu'on aurait pu aussi travailler avec les entreprises. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec l'entreprise de mon mari parce que ils étaient amenés à travailler avec les enfants. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il fallait faire. Ils voulaient mettre de l'eau de Javel partout, presque faire boire de l'eau de Javel aux enfants. Et en fait, je l'ai beaucoup aidé dans les procédures à mettre en place dans les crèches, dans les écoles. Et c'est là où je me suis dit, une infirmière hygiéniste pourrait être libérale. Ouais. Même en travaillant avec les infirmières libérales, en fait. Revoir, parce que moi, dans mon travail aussi, je vais voir, par exemple, je peux aider à faire les pansements des peak lines, des mid lines, des voies veineuses un peu particulières, on va dire, ou des pansements qu'on n'a pas régulièrement à l'hôpital, en fait. Alors, des fois, je ne connais même pas, donc je me renseigne, tout ça, mais en fait, c'est moi qui vais donner les consignes de comment on fait, et je me dis qu'en libéral, ça pourrait aussi se faire, tout ça.
Merci Dorothée, je vous invite à faire une pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. I feel your love. I feel time is up. When I was a child.
transient hub. Water's the shell and we are the nut. A twice or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches.
On se retrouve avec Dorothée sur FL Radio, infirmière hygiéniste, en compagnie de Margot et Livia.
Du coup, je vais reprendre. Quels sont les gestes d'hygiène les plus négligés par les soignants? Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça?
Alors, des anecdotes comme ça, je ne vais peut-être pas en retrouver.
On pourrait partir du plus général. Qu'est-ce qui pêche habituellement?
La base, l'hygiène des mains.
L'hygiène des mains.
Okay. Qui n'est pas faite tout le temps quand il faut.
La fréquence.
La fréquence, oui. On va la faire en rentrant, mais pas en sortant de la chambre, ou inversement. Ou on va en faire 10, mais pas comme quand il faut. La tenue aussi, hein, le port des bijoux, de la montre. Alors maintenant, avec les montres connectées, c'est très compliqué. Tout le monde veut garder sa montre pour avoir sa fréquence cardiaque et son nombre de pas. Voilà.
Est-ce que, du coup, quand un patient est transféré d'un hôpital à l'autre, vous êtes amené à collaborer avec d'autres hôpitaux? Enfin, est-ce que ça peut être externe au service?
Oui, en fait, à partir du moment où nous, on transfère, où on a un transfert d'un patient d'un autre établissement, si ce patient a déjà un statut infectieux connu, l'autre établissement va nous le communiquer, en fait. De même, quand on a des patients qui sont rapatriés de l'étranger, on est obligé systématiquement de les isoler, puisqu'on ne connaît pas leur statut infectieux. Et c'est Mondial Assistance, parfois, qui nous envoie un message pour nous dire qu'ils nous rapatrient telle personne dans tel service.
Quand on vous appelle dans un service, qui c'est qui vous appelle? Vous avez qui au téléphone et pourquoi?
Alors, ça peut être une aide-soignante pour savoir quel isolement doit mettre en place pour un patient. Ça peut être une infirmière, pareil, soit pour un iso, soit pour un pansement ou un matériel qu'elle ne connaît pas ou une bactérie qui est apparue sur le site du laboratoire et qui n'est pas connue pour eux. Ça peut être la cadre du service pour la prise. En général, c'est souvent pour une prise en charge de patients.
Vous passez beaucoup de temps au téléphone, finalement?
Oui. Oui, beaucoup de temps au téléphone, en effet.
Et est-ce que, du coup, vous diriez que votre rôle principal, c'est de sensibiliser vraiment les équipes aux mesures d'hygiène? Enfin, c'est quasiment constant?
Oui. Oui, le rôle principal, c'est vraiment ça. C'est les sensibiliser déjà aux précautions standards, hein, aux règles d'hygiène de base, on va dire. Puis à tout ce qui est complémentaire pour les patients à statut infectieux avéré. C'est vraiment...
En parlant de sensibilisation, est-ce que vous sensibilisez aussi les patients et leurs familles ou est-ce que vous sensibilisez essentiellement le professionnel de santé?
Alors, on est plus sur le professionnel, mais on est aussi sur le patient à l'occasion de journées ou de semaines de particulières. Par exemple, il y a la journée mondiale de l'hygiène des mains, le 5 mai, où là, on organise des choses pour les patients, mais maintenant de plus en plus pour les professionnels, pardon, mais par contre de plus en plus pour les patients. Puisqu'il faut savoir aussi que maintenant, le patient, il fait partie intégrante du soin. Hein, il doit savoir ce qu'on lui fait, pourquoi. Donc, si vous mettez un patient, par exemple, en précaution complémentaire, il faut qu'il sache pourquoi. Donc, parfois, ils ne comprennent pas. Donc, on va leur expliquer. Et puis, on essaye de les éduquer aussi à l'hygiène des mains, à la solution de l'alcoolique à l'hôpital.
Donc, c'est durant ces temps de prévention que vous êtes face à l'usager?
Oui, de plus en plus, mais aussi parfois dans l'année. On peut avoir des patients qui ne veulent pas être isolés ou qui veulent absolument sortir. Enfin, voilà. Donc, quand le service n'arrive pas à expliquer aux patients, ils nous appellent, en fait. Et nous, on y va en essayant d'avoir des mots un peu plus techniques, de leur expliquer.
Et par rapport aux familles, du coup, quand les patients sont isolés, est-ce que vous avez un rôle aussi, vous les éduquez, entre guillemets?
Alors, souvent, c'est fait par les services, mais oui, c'est pareil. Si la famille veut nous voir ou ne comprend pas ou... En même temps, en général, les gens, ils sont quand même... on n'a pas trop de soucis parce qu'on n'est pas non plus trop restrictif. Hein, un patient qui est isolé, il peut quand même aller prendre une douche dans le service. Nous, on a beaucoup de chambres communes, en fait. On n'a pas beaucoup de chambres particulières. On n'a pas de douche dans les chambres, hein, sauf dans un service. Si on empêche le patient de sortir de sa chambre, il devient fou et c'est encore pire. Donc, ceux qui fument, ils vont fumer. Mais par contre, on essaye de les éduquer en leur disant, voilà, avant de sortir, il faut faire ci. Avant de rentrer dans la chambre, il faut faire ça. Enfin, en fonction de ce qu'ils ont comme germe.
Vous avez parlé qu'il existe des préventions pour les patients et leurs familles, comme la journée du lavage des mains. Est-ce que, du coup, il existe d'autres préventions que vous, du coup, vous serez essentiellement amené à leur apporter durant des journées ou autres?
On peut être amené à faire là, il n'y a pas longtemps, on a été amené à faire une action en pédiatrie. Donc pour les enfants et pour les parents, en fait, où on a repris un peu l'hygiène en général, c'est-à-dire qu'on leur a parlé de l'hygiène bucco-dentaire, De l'hygiène des mains, de qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, quand on tousse, l'hygiène corporelle. On a encore fait, on travaille aussi parfois avec, on a un EHPAD en fait qui dépend de l'hôpital, donc on peut travailler aussi à l'EHPAD avec les familles, les résidents sur quand ils se baladent dans l'EHPAD, enfin éviter d'aller dans les chambres, surtout pour les visiteurs, d'aller dans toutes les chambres des résidents parce que parfois ils connaissent beaucoup de monde. Donc avant ça allait, depuis la Covid et les virus, c'est un peu plus compliqué quoi, que tout le monde se balade. Donc on a essayé de leur expliquer pourquoi il faut éviter de côtoyer tout le monde, ou alors il faut porter un masque. Ou...
Et est-ce que vous avez reçu une, est-ce que vous avez constaté une amélioration des gestes après la Covid ou pas? Oui. Est-ce que les gens font plus attention?
Au niveau de l'hygiène, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de l'hygiène des mains et du port du masque, oui. Ouais.
Finalement, quand vous faites des formations au personnel, c'est surtout des piqûres de rappel, non?
Oui, en fait, on est vraiment... parce qu'en fait, ils ont tout appris à l'école, principe. Enfin, au moins pour les infirmiers et les aides-soignants. Les brancardiers, les ASH, c'est parfois plus compliqué parce qu'ils ont parfois des parcours qui n'ont rien à voir avec la santé au départ. Mais on est tout le temps sur piqûre de rappel, sur la prévention sur les précautions standards, les précautions complémentaires. Ça va être beaucoup sur ça, en fait.
Vous aidez vos collègues à maintenir un degré d'exigence,
voilà,
en fait. Hein.
Exactement. Et puis, à se remettre en question aussi, parce qu'en fait, depuis quelques temps, on fait de la gestion du risque infectieux en simulation. Et en fait, on s'est rendu compte que... Enfin, eux se rendent compte, justement, qu'ils font comme ils font tous les jours et puis qu'il y a des choses qu'ils font depuis des années comme ça et qu'il faut pas faire... que ça ne se fait pas comme ça. Je sais pas, moi, par exemple, aller vider une poche à diurès sans mettre de tablier.
Oui.
Donc, ils vont le faire, là, ils vont faire le geste. Et puis, dans ceux qui regardent, forcément, il y en a au moins un qui va dire, t'as pas mis de tablier, il faut mettre un tablier, il faut protéger ta tenue. Et en fait, c'est vrai, t'as raison, dit comme ça. Et en fait, du coup, ils se remettent en question et ils repartent sur de meilleures bases.
Vous nous avez glissé que vous faisiez de la simulation, c'est ça?
Oui. Oui.
Ça consiste à quoi?
Alors, en fait, c'est de la formation, mais sur des pratiques, c'est-à-dire qu'on met le personnel en situation avec d'autres personnes, d'autres apprenants qui regardent cette personne ou ce binôme faire. Nous, c'est des binômes, une infirmière et une aide-soignante qui ont un scénario à réaliser, mais qui sont des choses courantes en fait, dans leur pratique professionnelle. Donc, avec les autres apprenants qui sont aussi infirmiers et aides-soignants qui les regardent à travers une vitre pour chez nous. Et puis après, en fait, ils discutent entre eux. En fait, ils débriefent avant que moi, j'intervienne entre eux sur d'abord ce qu'ils ont fait, ceux qui ont pratiqué, et puis les autres, ce qu'ils ont vu. Et en fait, les remarques passent beaucoup mieux comme ça, en fait, que de les prendre dans une salle, de leur passer un PowerPoint en disant « Voilà, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça ». En fait, là, ils sont vraiment sur leur pratique professionnelle et c'est plus facile de les...
D'avoir leur adhésion,
ouais,
quoi.
Voilà.
Infirmière, du coup, et hygiéniste, c'est une spécialité. Du coup, oui. Est-ce que vous formez des professionnels de santé? Est-ce qu'ils ont des stages? Est-ce que...
Alors, pas en hygiène hospitalière, en fait. Donc, l'infirmière hygiéniste, c'est un diplôme universitaire, en fait, en hygiène hospitalière. Mais par contre, on a dans le cursus des IBOD, ils ont un stage obligatoire en hygiène. Donc, on est amené à avoir des étudiants IBOD, en fait, qui viennent 15 jours dans notre service.
Oui, votre spécialité est intimement liée. Au départ, je ne l'avais pas réalisé. Tout ce qui est bloc et hygiène, ça va de soi. Mais
ouais. C'est une grosse partie, en fait, le bloc et puis l'endoscopie aussi, avec la surveillance des endoscopes, les prélèvements d'endoscopes, pareil, qui sont à faire régulièrement, les procédures de nettoyage, de désinfection, tout ce qui est endoscopie, c'est aussi une grosse partie pour les infirmières hygiénistes.
Oui, c'est une très grosse porte d'entrée de possible.
Ouais, le micro-organisme.
Et est-ce que, du coup, votre spécialité d'IBOD, elle vous manque pas un peu de temps en temps?
Alors, oui, ça me manque. C'est surtout les situations d'urgence qui me manquent, en fait. Quand je vais au bloc, qu'ils prennent en charge un patient en urgence, tout ça, bon, ça me manque un peu. Mais après, non, parce que bon, j'ai été 19 ans au bloc, j'en avais fait le tour et j'avais envie de changer, justement, j'avais envie de faire autre chose. Bon, la Covid, moi, m'a permis, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais m'a permis de justement de mettre un pied en hygiène. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et non, je regrette pas. Par contre, ça m'apporte beaucoup. Je vois par rapport à mes collègues, en fait, notamment pour gérer ces zones environnement maîtrisé, c'est vraiment un atout. Je pense aussi pour l'organisation, enfin l'esprit, en fait. Un IBOD a un esprit quand même
cartésien.
Voilà, très spécifique. Psychorigide, on pourrait dire parfois. Et moi, je trouve que ça m'a beaucoup apporté dans ma fonction d'infirmière hygiéniste.
Est-ce que le fait d'avoir été IBOD et maintenant infirmière hygiéniste, est-ce que si vous voulez repartir en tant qu'IBOD, ça serait compliqué ou, enfin, est-ce que c'est faisable, tout simplement?
Alors, c'est faisable. Alors bon, moi ça fait 5 ans là, donc je pense que je pourrais reprendre mon poste, on va dire assez rapidement en autonomie. Mais oui, c'est toujours faisable en fait. Alors bon, quand on a fait 20 ans d'hygiène, repartir au bloc, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est un peu comme le vélo, hein, ce qu'on y fait, ça ne s'oublie pas. Et puis il faudra, je pense, être juste un peu encadré pendant quelques temps et avant d'être autonome. C'est toujours faisable.
Et du coup, les soins techniques et tout ça, ça vous manque pas du tout? Parce que vous en faites, mais pas autant que
non,
vous,
non,
je
non,
suppose.
Non, c'est vrai que j'en fais. Non, ça va, ça me manque pas. Je trouve, enfin, j'ai d'autres choses qui me plaisent dans mon travail, donc c'est pas.
Même tout ce qui est relationnel et tout ça, enfin, vraiment la casquette.
Le relationnel, alors on l'a plus avec le patient, mais ouais. On l'a quand même beaucoup avec les équipes. On a beaucoup avec nos collègues, en fait.
On parlait de la collaboration avec les cadres de santé, les professionnels de santé. Mm-hmm. Comment, du coup, elle se passe, cette collaboration avec les cadres et les médecins? Est-ce que, du coup, vous, des fois, vous intervenez auprès des médecins?
Alors, nous, les infirmières, on intervient plus avec le personnel paramédical. Donc, cadre compris, hein. Par contre, pour les médecins, c'est plus la praticienne hygiéniste avec qui je travaille, qui les forme ou qui discute avec eux, parce que c'est toujours un peu compliqué. Enfin, le fait qu'ils soient médecins et que moi je sois infirmière.
Niveau hiérarchie.
Ouais, voilà.
Et est-ce que du coup, vous avez cette casquette, hein, tout à l'heure vous disiez que vous aviez la casquette un peu de gendarme. Et ça vous atteint pas, vous, dans votre...
Non,
votre
en fait, c'est peut-être parce que j'étais IBOD à la base. Comme ouais. Je disais, une IBOD, c'est hyper rigoureux, c'est hyper... Enfin, voilà, on tient sa salle. Bon, là, je tiens les services. Après, je suis jamais... Enfin, comme je disais, je suis jamais agressive. Je vais jamais aller au clash avec un personnel. Surtout actuellement, parce qu'on est quand même en restriction de personnel un peu partout. Hein. Donc, quand on arrive dans un service et que l'infirmière, elle est toute seule pour 25 patients, je vais pas commencer à aller lui dire « Pourquoi t'as mis des gants ?» Et voilà, enfin... Mais on en discute après, et c'est jamais à chaud. Et en fait, j'arrive toujours à discuter avec eux et à les faire. Alors, parfois, ils trouvent leur faute eux-mêmes, en fait. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, après, on a aussi des gens qui sont toujours avec qui on n'arrive pas à discuter. Et quand c'est comme ça, on passe par le cadre, en fait. Quelqu'un qui a tout le temps ses bijoux et qui ne veut pas les enlever, à un moment, moi, c'est plus mon travail, quoi. Moi, je dis au cadre, voilà, il y a un problème de bijoux dans le service. Après, c'est à l'encadrement de corriger ses équipes.
Quelle est la partie de votre métier que vous préférez? Moi, j'entrevois que le fait d'être un peu le côté détective doit être quand même assez passionnant.
Oui, alors il est passionnant au départ. Et puis après, finalement, on est détective, mais toujours, on retrouve tout le temps les mêmes...
Les mêmes coupables.
Les mêmes fautes, les mêmes coupables, les mêmes problèmes. Donc, au bout d'un moment, on les connaît. Enfin, quand on voit qu'il y a un problème dans un service, on dit « Ah, tous les coups, c'est un tel. » Et puis, on ne s'est pas trompé, quoi. Donc, non, après, il y a le côté quand même, pour moi, qui est vraiment d'améliorer la prise en charge des patients, en fait, ou tout au moins d'éviter que les patients soient mal pris en charge au niveau du risque infectieux dans l'établissement.
Moi, j'ai l'impression que toute votre, tous les métiers que vous avez exercés prennent sens, en fait, au décours de cette fonction.
Oui, c'est pour ça que je dis, c'est toujours ce que je dis, pourquoi l'hygiène ? Parce que c'était pas... Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités, c'est-à-dire que quand j'ai fait l'école d'Ibode, on m'a proposé de faire le DU d'hygiène en même temps. Donc j'ai dit, oui, ok. J'y avais pas pensé, je pense que je l'aurais jamais fait sinon avant. Et puis, de ce fait-là, je me suis retrouvée référente en hygiène au bloc, et puis j'ai toujours eu cette appétence de risque infectieux.
Vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez en équipe, du coup, vous travaillez en équipe au sein de l'hôpital. Mm-hmm. Combien vous êtes environ dans l'équipe
d'hygiène ?
Ouais.
Alors, on est deux infirmières et demie. Donc, on est deux temps plein et une mi-temps. La mi-temps, en fait, notre mi-temps, elle fait de l'équipe mobile d'hygiène, parce que moi, j'en fais pas, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des équipes mobiles d'hygiène pour les EHPAD qui ont été créées par l'ARS depuis la Covid, en fait. Donc, pour les aider à prendre en charge les épidémies et puis, pareil, à mettre en place des procédures sur la gestion du risque infectieux. Et puis, donc après, on a un agent administratif et un praticien hygiéniste, donc qui est une pharmacienne avec un DU d'hygiène.
Vous restez longtemps sur place quand vous vous déplacez dans des EHPAD ?
Alors, elle travaille avec les EHPAD par demi-journée. Donc, elle en a plusieurs, elle en a une dizaine. Elle a une dizaine d'EHPAD où elle travaille par demi-journée avec des formations, en fait. Donc, elle y va d'abord pour voir ce qui pêche. Elle fait des audits, des choses comme ça. Et puis après, elle met en place des formations et elle va former les personnels sur place. Il y a aussi l'ARS qui demande à former sur telle ou telle chose. Il y a des objectifs tous les ans, en fait.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne travaillez pas avec les infirmières libérales. Mais est-ce que tout ce qui est HAD, SIAD, tout ça, vous intervenez aussi ou pas ?
Alors, on n'intervient pas. Il y a des infirmières, comme dans l'HAD côté de où je travaille, là, il y a une infirmière hygiéniste. Ils ont une infirmière hygiéniste pour les procédures, tout ça. Donc, nous, on ne travaille pas directement avec elle. Par contre, on a déjà ouvert des journées de formation, par exemple sur les cathéters veineux périphériques, des choses comme ça. On l'ouvre parfois aux infirmières libérales.
On aurait une question plus centrée sur nous. On est du coup étudiante infirmière en troisième année. On part en stage international au Cambodge là, le 31 octobre. Et quels seraient vos conseils au niveau du risque infectieux du coup, que vous pouvez nous donner ?
Alors, je ne connais pas bien le Cambodge.
Non, mais à l'étranger en général, est-ce que vous avez des conseils
Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que sorti de l'Europe, on est beaucoup plus à risque d'attraper des germes pathogènes, notamment déjà dans l'eau. Et puis aussi, nous, quand on a des patients qui viennent de l'étranger, en fait, on les dépiste, on les isole systématiquement. C'est une obligation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on a un tas de dépistages à leur faire. Et en général, on trouve des germes qu'on n'a pas en France. On a parfois en Europe, mais pas en France. Il faut savoir que quand même, alors j'étais très négative sur le risque infectieux, mais en France, on est quand même un des pays européens, tout au moins, et même international, je pense, où on a le moins de germes pathogènes, en fait. Enfin, où on surveille. On a beaucoup de surveillance. Sortie de la France, c'est plus compliqué. Alors, que vous dire ? Faites attention à ce que vous buvez. Hygiène des mains, pareil, rigoureuse dans la prise en charge des patients. Après, c'est pas toujours facile. Moi, je connais pas trop comment leur façon de faire et ce qu'ils ont comme sanitaire, comme matériel. Il faut s'adapter au pays, en fait.
Ouais. On va découvrir.
En restant logique dans les actes que vous allez faire.
Et apporter un peu de notre savoir-faire, entre guillemets.
Merci Dorothée d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre témoignage. Merci à vous, Livia et Margot, pour toutes vos questions pertinentes. Soins sonores saison 3, c'est déjà fini. Merci à Pascal de nous avoir ouvert les portes de son studio et merci à Kevin d'avoir réalisé ces émissions. Merci à tous. Vous pouvez réécouter tous ces épisodes en podcastant ces dernières sur le site d'Eiffel Radio. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.